Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans cet épisode 32 de Sugar Free, Reski Sugar qui vous parle. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre Didier Gomez, un ufologue français, c'est-à-dire un spécialiste des ovnis en France. Oui, ça existe et je suis allé me perdre dans la campagne tarnaise pour pouvoir discuter avec lui. Je pense que pour ceux qui ont pu analyser mon profil psychologique grâce aux 31 premiers épisodes, vous savez que je suis fan de tout ce qui est étrange, j'allais dire surnaturel, mais en fait, j'ai plus envie de dire mystérieux. En fait, j'aime bien les choses inconnues pour lesquelles on n'a pas spécialement de réponse encore. Et en fait, voir comment l'être humain agit face justement à l'inconnu. Est-ce qu'il va tout mettre en œuvre pour répondre aux questions qui se posent, ou au contraire, est-ce qu'il va aller plutôt dans le tabou et dire qu'en fait, cet inconnu, on n'a pas le droit d'en parler ou de continuer à soulever ce mystère-là. Et on est un peu dedans avec les ovnis, justement. Ça me tenait à cœur d'aller lui parler à lui parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « OVNI 2.50 ans d'enquête dans le Tarn ». Et moi-même, je viens techniquement du Tarn. J'ai fait toutes mes études là-bas, de la primaire au lycée. Et c'est là-bas, dans le Tarn, à Albi, que j'ai vu un ovni. Je relate cette expérience dans cet épisode, mais j'en parle aussi dans l'épisode Conspi Hunters spécial Alien Theory. Mais là, c'est très intéressant, parce que Didier Gomez, il a pu recueillir des dizaines, des centaines de témoignages de gens qui ont vu quelque chose de bizarre dans le ciel. Alors parfois c'est explicable, parfois ça l'est moins. Et vraiment sincèrement, dans cette conversation, j'ai entendu des choses, et en tout cas des interprétations de tout ce phénomène OVNI que j'ai jamais entendu, ni dans des documentaires, ni dans des podcasts où d'autres personnes spécialistes de par le monde en parlent. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en avez pensé. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui me disent que les épisodes qu'ils ont préférés. Merci à tous. Merci à ceux qui participent au Patreon du podcast Sugar Free. Donc, c'est patreon.com/sugarfree. Ça permet de faire vivre le podcast et par exemple de me payer des billets de train pour aller interviewer des gens intéressants. Si vous voulez vous aussi aider le podcast, n'hésitez pas. Et en plus, avec Patreon, vous aurez droit à des épisodes bonus. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner sur iTunes et de mettre 5 étoiles. J'espère que cet épisode va vous plaire. Je vous fais des bisous.
Je me souviens que j'avais 13-14 ans, un copain à moi qui avait récupéré des bouquins sur les ovnis. Et ça m'avait intrigué, mais sans plus. Enfin, il m'en avait un peu parlé, voilà. Et puis pendant 3-4 ans, ça m'est sorti de la tête. Et puis après, en 88, il y a eu la vague belge, donc de 1988 à 1992. Et moi, c'est l'époque où j'ai passé mon concours des PTT à l'époque. Et donc, je suis parti à Paris à 19 ans. Et donc, je suis arrivé à Paris, et c'est vrai qu'à Paris, on peut se procurer des éditions de Belgique. Il y avait Le Soir, il y avait je ne sais plus quels journaux qu'on trouvait à Paris. Et donc, j'avais commencé à acheter deux, trois journaux et puis j'avais trouvé des articles comme ça sur le phénomène OVNI. Ça m'intriguait. J'avais vu un reportage aussi à l'époque, c'était La 5, c'était Patrick de Carolis qui avait fait un reportage sur les mystères, enfin, sur la vague belge. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser comme ça. J'ai commencé à acheter deux, trois bouquins. Donc, j'étais à Paris, c'était facile parce qu'il y avait les quais de Seine, il y avait des bouquinistes, des foires aux bouquinistes au parc Georges Brassens, dans le 15e. Là, j'allais tous les dimanches matin. Et j'ai commencé comme ça à me documenter, à très rapidement avoir une cinquantaine de bouquins. Et
la vague belge, c'était un mois, c'est ça, où il y a eu plusieurs...
Non, ça a duré quasiment 4 ans. Fin 89, en fait, ça a commencé novembre 89 jusqu'à mars 92, pendant quasi 2 ans et demi, 3 ans. Il y a eu des observations hallucinantes, parce qu'il y a eu même l'armée qui s'est mis dedans, dans les médias, pour dire, voilà, on va essayer de comprendre ce que c'est. Il y avait des tas de témoignages. Et moi, j'ai même enquêté en Belgique, puisque... Alors, à cette époque-là, moi, je suis monté à Paris en 90. Et j'ai commencé à m'intéresser. Donc, j'ai commencé par les bouquinistes, me documenter. Et très rapidement, au bout de 6 mois, j'ai contacté des associations parisiennes.
Comment on trouve une association d'ufologie à Paris avant Internet ?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, vu que j'ai commencé à me documenter, il y avait des coordonnées à la fin de certains livres.
Ah, ok.
Il y avait des coordonnées d'associations ou de magazines. Et à l'époque, il y avait Lumière dans la nuit, il y avait l'Inforespace de la SOBEPS en Belgique. Et donc, j'ai écrit. Bon, c'est vrai que ça fonctionnait beaucoup par courrier. Enfin, une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables. Enfin, c'était... moi, je me souviens, j'attendais le matin le facteur pour récupérer des lettres. J'avais écrit à des auteurs.
Oui, est-ce que cet assaut m'a répondu ?
Voilà. Et alors, ça prenait du temps, mais bon, c'était sympa. Et j'ai conversé comme ça avec pas mal d'ufologues, y compris Jacques Vallée à San Francisco, qui m'avait répondu une ou deux fois, qui est Jacques Vallée, un scientifique français qui a inspiré notamment le...
Personnage joué par François Truffaut.
Ouais, voilà, qui a inspiré le personnage de Rencontre Troisième Type. Et que j'ai pu rencontrer d'ailleurs en 2014 à Paris, puisque j'ai eu la chance de manger à côté de lui lors d'une rencontre organisée par le CNES. Et voilà, du coup, j'ai commencé comme ça, en fait, à rencontrer des responsables d'associations. Puis j'ai commencé à faire des enquêtes, j'ai rencontré plusieurs ufologues de renom, on va dire, français. Et du coup, j'ai même pu faire des enquêtes. Je suis parti avec Joël Ménard de Lumière dans la nuit, qui est la plus ancienne revue d'ufologie au monde, qui existe toujours. Et il y a eu plus de 450 numéros édités. Et en fait, c'était une revue qui laissait la part belle aux enquêteurs. Donc, il y a dedans des tas d'enquêtes, de témoins qui ont été rencontrés. Et voilà, moi, j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, du coup, j'ai commencé à recueillir des témoignages.
Mais comment ça se passe avec le Didier de, je sais pas, de 90... Enfin, la première fois que vous allez parler à quelqu'un qui a vu quelque chose, comment ça se passe ? Parce qu'en fait, là, sur le moment, bah, y a aucune publication, pas vraiment, entre guillemets, de légitimité. Alors, moi, on toque à la porte et on dit...
Ce que je faisais souvent, j'appelais.
Ouais.
Ça m'est arrivé d'aller chez les gens un peu comme ça, un peu à l'improviste. Et déjà, j'arrivais à mettre à l'aise en disant bon, je ne suis pas journaliste, voilà, je m'intéresse au sujet. Et puis, je parlais de tout sauf de ce qu'ils avaient eu. Alors, bon, voilà, le gars, ça m'est arrivé, le gars, il est à la ferme, on parle de la pluie, du beau temps.
Ouais.
Et puis, moi, ça m'intéresse, tout ça. Et j'ai recueilli des témoignages, une association. Mais bon, je fais ça comme ça. Et puis, petit à petit, bon, en fonction des témoins, globalement, j'ai toujours été bien accueilli. Et puis ensuite, je faisais un suivi aussi. Alors, je rappelais les personnes. Est-ce que vous êtes d'accord pour témoigner ou pas ? Vous inquiétez pas, je publierai pas votre nom. Et ça, moi, j'ai jamais jamais transgressé quand quelqu'un me disait pas que vous publiez mon nom. Il y avait jamais le nom publié, quoi. Ouais. Donc il y avait une confiance. Après, moi, c'est vrai que quand j'étais dans le temps, c'était plus facile parce que je disais, je suis facteur, je m'intéresse au sujet. Et comme j'ai fait paraître beaucoup d'articles dans la presse locale, ouais. Eh ben les gens me connaissaient en fait.
Ouais, ouais.
Et donc, souvent, ils m'appelaient c'est vous le facteur qui s'intéresse au sujet. Et voilà. Et comme ça, j'ai eu beaucoup de témoignages parce qu'il y avait le côté sympathie du facteur. Et donc, les gens étaient en confiance, quoi. Et après, dans le bouquin, j'ai pas... chaque fois que j'ai publié les noms, c'est parce que ben, soit il y avait ça avait été publié dans la presse et la personne était d'accord que je publie son nom. Et sinon, j'ai mis des pseudonymes et puis voilà. Pour pas... Mais c'est que des témoignages. Il n'y a rien d'inventé, quoi, en fait.
Oui, mais je pense que oui, ça rassure les gens. Comme on le disait tout à l'heure, les pilotes qui peuvent hésiter à dire ce qu'ils ont vu, je pense que ça rassure les gens de se dire, bon, il n'y a pas vraiment, enfin, entre guillemets, pas vraiment d'impact, si ce n'est juste que, enfin, je parle à quelqu'un qui ne va pas me prendre forcément pour un fou.
Après, il y en a qui n'ont pas voulu témoigner. Il y en a qui... Je me souviens d'un cas où j'étais arrivé avec un magnéto à cassette, là, et j'ai failli me faire foutre dehors parce que la femme du témoin ne voulait absolument pas que j'enregistre. Elle n'était pas d'accord avec ce que son mari avait vu. Elle ne voulait pas me parler. Enfin, y a eu des fois, ouais, ça a été un peu, bon, un peu tendu, mais bon, après...
Ouais. Et mais sans le côté psychologique, c'est vrai que vous parliez de traces, de choses comme ça. Donc, c'est vrai que même si on en vient à des choses où il y a des interprétations différentes, etc., il y a quand même des cas où, effectivement, on trouve des traces sur le sol, des choses un petit peu bizarres en termes de haute température qu'il y a pu avoir, des choses comme ça. Est-ce que vous avez pu en voir ?
Après, le problème, c'est qu'en tant qu'association, on était très limité parce que les cotisations qu'on avait, c'était par rapport... on n'avait pas d'aide de personne. Donc, il y avait les adhérents qui payaient. Et après, c'était le magazine quoi, qui permettait d'avoir des fonds. Et le problème, c'est qu'on avait... Moi, j'ai eu le cas de... du côté de après réellement là-bas, je me rappelle plus exactement mais c'est dans le bouquin et j'ai voulu faire analyser en fait il y avait un phénomène lumineux qui avait été jusqu'à faire tomber des étincelles dans une barrique d'eau. Et j'ai voulu faire analyser l'eau pour voir si on ne trouvait pas des trucs dedans. Et le problème, c'est que c'est de suite un coup
par des
laboratoires. Ouais. Bon, alors du coup, on était limité dans les enquêtes. Quoi.
Mais est-ce que les organismes, enfin, en tout cas au moins en France, comme le GEPAN ou des choses comme ça, eux ont pu faire...
Il y a eu des analyses. Je sais que sur le cas de Bertre, dans le temps, je crois que c'est en 85... alors, ils sont venus avec la gendarmerie, ils ont pris des tuiles sur le toit parce qu'il y avait un phénomène qui avait enfoncé la toiture.
Ah oui, ok.
Et sauf qu'ils ont pris des tuiles, ils n'ont jamais remboursé, ils n'ont jamais communiqué le résultat des analyses qu'ils ont fait sur les tuiles. Et le témoin, plusieurs années après, il me disait « Mais j'attends toujours qu'ils me remboursent. Je ne sais pas ce qu'il en a été des analyses. » Et surtout, ils m'ont pris des tuiles et ils ne me les ont jamais remboursées. Donc après, je ne sais pas, ça c'était un cas où il y a eu beaucoup peut-être de ça. Le témoin a peut-être beaucoup brodé sur ce cas-là. Et du coup, parce qu'après moi, la fois où j'étais allé le voir, il avait vu...
quelque chose d'autre.
Il avait vu 10 fois des trucs. Quoi. Alors au moment quand un témoin voit trop de choses, c'est bizarre.
Oui, oui.
Soit il ne s'est pas observé, il voit la moindre lumière, ça y est, c'est un ovni. Donc ça, ça perd en crédibilité. Donc, c'est pas bon signe, quoi.
Ouais.
Et jusqu'en avril 93, moi, j'ai fait mon armée entre-temps, en octobre 92. Et là, j'étais dans un service au Fort Neuf de Vincennes, où j'avais un comptoir SNCF, et dans le cadre de mon service militaire, en fait, s'occuper de faire des billets de train, des billets d'avion, un comptoir Air France, un comptoir SNCF, pour les troupes de gendarmerie ou militaires qui partaient en Centrafrique, au Tchad, un peu partout en Nouvelle-Calédonie. Et là, j'ai eu un témoignage d'une dame, son gendre, en fait, qui ne croyait pas du tout aux ovnis, était en patrouille du côté de Lyon-Bron, dans la banlieue lyonnaise. Donc, patrouille de gendarmerie avec 4 personnes dans une 4L à l'époque, avec un chien, donc brigade cynophile. Et là, il voit l'équivalent de la moitié d'un terrain de foot, une structure rectangulaire comme ça, qui leur passe à 15 mètres au-dessus de la tête, sans un bruit. Et donc, faut peut-être pas le dire, mais j'ai récupéré le rapport de gendarmerie.
D'accord.
Donc, il y a eu consignation. Il faut savoir que... Tous les témoignages déposés à la gendarmerie sont stockés au centre de la nationale de la gendarmerie à Leblanc, dans le 36, à côté de Châteauroux.
Ils sont libres d'accès ou pas ?
Pas du tout.
Parce que la gendarmerie, c'est la militaire.
Pas du tout. En fait, il y a un exemplaire qui est transmis au CNES, enfin au GEPAN exactement, et le reste est archivé. Et même les brigades ne gardent pas trace de ces rapports. Okay. Bon, moi, j'ai pu avoir ce rapport-là par un concours de circonstances. Je connaissais la dame qui m'a donné le témoignage. Alors, moi, je l'ai eu après au téléphone, le gars en question, le gendarme. Mais il m'a dit surtout, bon, il ne faut pas, faut rien diffuser. Donc, même dans le cadre du Faux-Mania, du magazine que j'ai édité, j'ai jamais publié le témoignage avec les noms des gendarmes.
Ah oui, les noms. Mais sous anonymat, c'est...
Voilà, après, j'ai dit, voilà, il y a des gendarmes qui ont observé ça à tel endroit, mais bon, ça, voilà. Et après, bon, j'ai toujours demandé l'autorisation aux témoins quand je publiais des choses.
Mais ça, c'est marrant parce que dans votre livre... OVNI 50 ans d'enquête dans le Tarn, il y a ce côté où, en fait, dès que ça se sait que vous êtes intéressé par ça, en fait, c'est pas que les langues se délient, mais en fait, on en parle et il y a toujours quelqu'un, au final, dans la famille de quelqu'un d'autre qui se dit « Ah ben, justement, il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. »
Moi, je suis redescendu dans le Tarn en 97, donc je travaillais à la poste à Paris, au guichet, et je suis redescendu en tant que facteur. Et voilà, donc au début, bon, je n'ai jamais caché que je m'intéressais à ça. Et j'ai commencé à monter une association. Et puis, j'ai fait paraître des articles dans la Pêche du Midi, dans le Tard Libre. Alors, à l'époque, il y avait un autre journal, j'ai oublié le nom, qui n'existe plus. Et du coup, un peu, les journalistes, un peu, Albi, se tirent un peu la bourre. S'il y en avait un qui publiait un truc sur moi, la semaine après, il fallait que l'autre journal aussi dise quelque chose. Et du coup, comme ça... Alors, en fait, c'est une technique qu'on avait dans le cadre des associations... sur Paris, on faisait des appels à témoins. C'est-à-dire que ben même si on n'avait eu aucune info, on disait aux journalistes, voilà, il s'est passé des choses la semaine dernière, je fais un appel à témoins dans la presse. Oui. Appel à témoins, s'il y a des personnes de l'environnement de l'Albigeois ou du Tarn qui ont vu des phénomènes, merci de contacter l'association Planète OVNI. À l'époque, on avait appelé ça Planète OVNI. Et du coup, alors, des fois, même si on n'avait aucune info, il y avait toujours quelqu'un qui nous contactait. Moi, j'ai vu ça, ou mon voisin, il a vu ça. Et ensuite, moi, j'étais facteur, du coup, mais pendant ma tournée, on me disait, tu devrais aller à tel endroit. Moi, je ne t'ai rien dit. Hein. Mais tu devrais aller voir Madame Untel. Elle a vu un truc bizarre. Où, je me souviens, une fois, je faisais une tournée autour de Groyer. Et on me dit... tu devrais aller voir là-bas à Saint-Gauzès, c'est à côté de Groyer. Il y a quelqu'un qui a vu autour de sa piscine quelque chose. Et donc, j'ai eu comme ça beaucoup de témoignages.
Moi, je trouve ça marrant parce que très souvent, enfin, dans la culture commune, on va dire « Ah oui, mais les gens qui disent avoir vu des trucs, c'est pour se rendre intéressant, pour attirer l'attention. » Et au final, on se rend compte que personne n'a envie d'en parler. C'est alors ça. Qu'ils
personne n'a envie d'en parler.
Tout le monde veut être sous anonymat. Et alors là, en fait, ça ne rapporte rien.
Je me souviens de ce témoignage, en fait. Le gars, il avait vu, donc du côté de Saint-Gauzens, il avait vu ça, mais quelques années auparavant. Et moi, quand je l'ai interviewé, il était avocat. Donc, ça faisait quelques années qu'il avait vu ça. À l'époque, il avait 17 ans. Il avait vu ça à la maison de ses parents, au-dessus de la piscine. Et donc, il ne voulait surtout pas que je publie son nom. Donc, j'ai respecté l'anonymat, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, alors effectivement, les gens n'osent pas en parler, n'osent pas dire, moi j'ai vu ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, dans le bouquin, j'ai mis l'accent sur le fait que, avant tout, moi, je cherchais à expliquer les témoignages. Alors, c'est aussi pour ça que on avait créé une association, j'ai été... un des rares à être invité par le CNES. Donc au CNES, on arrive, on donne la carte d'identité, on a l'impression d'être... Enfin, c'est un bâtiment
officiel,
militaire,
oui.
Quoi. Voilà, on ne rentre pas comme ça. En fait, moi, j'avais demandé à rencontrer le responsable du GEPAN, parce que dans le cadre de mon bouquin, j'avais des obstacles dans certaines enquêtes. J'avais le numéro de procès-verbal, mais je ne savais pas ce qui s'était passé. J'avais le témoin, mais je savais qu'il y avait un procès-verbal, mais je n'avais pas accès. Et ensuite, alors, il s'est passé deux choses. J'ai été reçu au GEPAN. Donc là, j'ai dit, voilà, il y a tel et tel cas. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. J'ai le nom du gendarme qui a pris la déposition, mais je n'ai pas le contenu du procès-verbal. Et suite à ça, j'ai été même reçu par... alors, je sais qu'il a fini colonel, par le commandant de gendarmerie de la brigade d'Albi. C'était le commandant Machu, Jacques Machu, qui est à la retraite depuis. J'étais reçu de manière officielle. Il m'a dit, on va dans mon bureau, on va parler d'OVNI. Et on est resté une heure et quart. Et on a effectivement parlé que de témoignages OVNI. Et là, bizarrement, 15 jours, 3 semaines après, j'ai eu les infos que je voulais.
D'accord.
Alors, je pense que c'était un test pour savoir si j'allais lui raconter que j'attendais les extraterrestres. ou... À l'époque, ici, à Valence d'Albi, il y avait Raël, les Raéliens, qui est une secte qui n'a rien à voir avec l'ufologie et qui se sert un peu des croyances et des la faiblesse des gens pour récupérer du pognon.
Est-ce que c'est pas déjà une sorte de filtre, un procès-verbal, c'est, ça devrait normalement être quelque chose de libre pour tout le monde, c'est quelqu'un qui a juste témoigné de quelque chose.
En ce qui concerne les témoignages relatifs à des phénomènes non identifiés, il y a un délai de sauvegarde des archives de 30 ans.
D'accord.
Et certains cas même 50 ans.
D'accord.
Alors tout ça, ça a été fait pour... Parce qu'à une époque, ils étaient un peu... les gendarmeries, les brigades étaient sollicitées par les enquêteurs, par les ufologues privés, comme moi. Hein. Et donc, au bout d'un moment, il y a eu la gendarmerie au niveau national a dit, maintenant, chaque rapport sera archivé et non consultable pendant 30 ans.
D'accord.
Bon, 30 ans après, plus personne ne va aller demander ce qui s'est passé. Alors moi, je l'ai fait pour des cas... quand j'étais sur Paris, j'avais écrit... j'ai des tas de courriers de gendarmerie où je demandais d'avoir accès au rapport, au procès-verbal. Et on me disait, c'est centralisé à la gendarmerie, au Centre national de la gendarmerie à Leblanc, dans le 36. Et donc, voilà, il y a un délai de réserve de 20, 30, 40 ans, certains cas, d'accord, pour pas que l'opinion aille fouiller essayer de mettre le nez là-dedans.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, ce... colonel à l'époque commandant, vous a dit pourquoi en fait. Ça reste quand même juste, entre guillemets, des lumières dans le ciel, un citoyen français le voit ou quoi que ce soit, mais on décide que ce sera...
Alors c'est certains cas évidemment, hein, mais les cas les plus problématiques on va dire, parce qu'ils disent que ça inquiète la défense nationale, ouais. ça peut
troubler l'ordre public quoi,
ouais, voilà, un petit ça peu. Peut, ouais. C'est des phénomènes qu'on ne connaît pas et donc la gendarmerie et l'armée essayent je pense qu'ils savent pas non plus à quoi on a affaire.
Psychologiquement, ils savent pas comment gérer les citoyens.
Après, c'est très complexe. Alors dans l'ufologie, moi, j'ai quand même ça fait quand même depuis les années 80, fin des années 80 que je m'intéresse au sujet, donc je connais un peu tout le monde dans le milieu et c'est vrai qu'il y a beaucoup de zozos quand même. Il y a des gens pas très sérieux, ouais. Et donc du coup il y a toute une procédure. Après, vous pouvez aller à la gendarmerie dire voilà, j'ai vu des lumières. Bon, alors en fonction de si c'est vraiment s'il y a des traces au sol, s'il y a un pilote d'avion qui passe au même moment, qui voit effectivement un phénomène, là on va recueillir votre témoignage. Si vous allez dire juste j'ai vu une petite lumière dans le ciel, on va classer, on va dire non, mais vous avez vu un avion, une lanterne thaïlandaise, oui. Voilà. Mais normalement, les gendarmes sont tenus de prendre votre déposition par écrit, voilà, et d'archiver le truc. Après, moi, quand tous les cas dont je parle, c'est des cas où il y a des traces, où il y a le GEPAN qui s'est déplacé, où il y a des traces radar, des pilotes d'Air France, des pilotes privés ou militaires qui ont observé, qui ont fait des dépositions. Alors, tous les pilotes privés et militaires, en cas de phénomène de PAN, alors ils appellent ça maintenant les PAN, phénomène aérospatial non identifié, ils doivent faire une déposition. Alors certains, en fonction de ce qu'ils voient, ils hésitent parce que si ça paraît trop fantasmagorique, ils ont peur des fois de passer pour des fous, ouais. Et qu'on leur retire la licence pour piloter. Donc bon, après voilà, il y a eu quand même des tas. J'ai des bouquins là-dessus sur juste les rencontres aériennes de pilotes. Et c'est assez hallucinant, quoi.
Mais surtout que là, dernièrement, en 2017, il y a le Pentagone qui a relâché la fameuse vidéo de ce qu'ils appellent le tic-tac UFO, c'est-à-dire un pilote qui était en F-35, je crois, et qui a pris en chasse un objet volant non identifié qui faisait qui manœuvrait, littéralement, mais avec, j'allais dire, une manœuvrabilité qui n'est pas sur des engins qu'on connaît. Et du coup, là, c'est vrai qu'on donne toujours beaucoup plus de crédit dès qu'on a forcément un pilote chevronné qui dit « Bon, ça, clairement, je ne sais pas ce que c'est, quoi. »
Ouais, mais alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce genre de témoignage. C'est que, alors, je vais schématiser, ce n'est pas toujours vrai, mais un pilote de chasse militaire ou un pilote d'Air France ou d'une autre compagnie, peu importe, il va voir En règle générale, je ne dis pas tout le temps, mais en règle générale, il va voir quelque chose qui a des capacités aéronautiques qui dépassent l'entendement au niveau, enfin, au niveau visuel. Je pense au pilote japonais, là, le commandant Teroshi, qui avait vu comme un gros œuf qui faisait l'équivalent de 10 fois son 747.
Ah oui.
Bon. Okay. Alors, c'est très intéressant parce que, à côté de ça, un agriculteur,
ouais,
il va voir quelque chose se poser au sol.
Ouais, oui.
Alors,
chacun son milieu et son environnement.
Il y a une adaptabilité, ouais, du phénomène,
ouais,
en fonction de plusieurs critères. Alors, ça, c'est très intéressant parce que, après, bon, on pourra rentrer un peu dans le vif du sujet. Moi, je ne crois pas du tout une seule seconde que tous ces phénomènes. Alors, je suis persuadé qu'il y a quelque chose. Mais je ne crois pas du tout que ces phénomènes-là sont l'œuvre d'une puissance extraterrestre ou tout ce qu'on peut entendre. Il y a une adaptabilité du phénomène en fonction du témoin, mm-hmm, en fonction de ses croyances, en fonction de l'époque dans laquelle il est. Ouais. C'est-à-dire qu'au début du 19e siècle ou en 2000, on ne voit pas les mêmes choses. Ouais. En fonction de sa culture. Donc ça, c'est super intéressant. Et en fonction du lieu, bien sûr, parce que, par exemple, moi, j'ai pas mal de bouquins sur l'ufologie brésilienne.
Ouais.
Alors, la société brésilienne est une société beaucoup plus violente que par exemple, la société française. Et là, on trouve des cas d'ovnis qui vont jusqu'à tuer, jusqu'à brûler.
Mutiler des... Ouais,
ou
des...
Et ça, alors voilà, il y a une adaptabilité en fonction de la population, mais aussi de l'époque. Et ça, c'est super intéressant.
C'est intéressant de se dire, effectivement, que la psychologie du témoin affecte toute l'expérience.
Alors, pour schématiser, on retrouve ça dans Lumière de la Nuit, qui a publié des centaines et des centaines d'enquêtes. Je me souviens d'un témoignage où le gars, il est bijoutier, et il va voir des lumières qui font penser à un collier. Voilà,
oui, oui,
des,
oui,
choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il voit, ça n'existe pas.
Oui, oui.
Mais
c'est sa perception, en tout cas, qui, ouais, est biaisée par...
En fait, moi, ce qui m'intéresse, parce que quand on s'intéresse au sujet OVNI, on s'intéresse à tout, aux fantômes, aux apparitions de la,
oui,
Vierge,
oui,
et aux capacités du cerveau aussi.
Ouais.
Et on s'aperçoit que, globalement, dans le phénomène OVNI, il y a ce qui est le point central, c'est le cerveau humain. Plus globalement, c'est la vie sur Terre. Enfin, voilà. Après, il y a... Bon, voilà, moi, je suis en train de sortir un bouquin donc, sur le thème OVNI nucléaire. Et c'est vrai que tous les... Voilà, on a des témoignages où il y a des têtes nucléaires qui sont désamorcées, oui, dans des silos qui sont enfermés à 10 mètres sous Terre. Il n'y a aucune explication. C'est impossible. Il faut des clés, il faut des codes pour désamorcer des têtes nucléaires. Et mieux que ça, il y a eu un cas où il y a des silos qui ont été ouverts. Donc imaginez un missile nucléaire Minuteman qui fait à peu près 17 ou 18 mètres de long. C'est enfoncé dans la terre à 10 mètres sous terre. Il y a une trappe qui doit être désamorcé pour lancer le missile. Donc tout ça, il y a des codes de sécurité que tout le monde n'a pas, bien sûr. Il faut que le général de la base puisse rentrer les codes s'il a ordre du président d'envoyer un missile. Donc il y a des cas où il y a des lumières qui sont observées à proximité. La trappe a été ouverte et le missile a été désamorcé. C'est-à-dire que, enfin, il y a quelque chose qui a dit à l'armée,
non,
ben on est capable,
oui, de faire ça.
On est capable d'ouvrir un silo, de désamorcer des têtes nucléaires. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement irréel, quoi. Et pourtant, il y a des tas de témoignages comme ça.
Notre perception de tous les jours va être biaisée par ce qu'on fait dans la vie, par ce qu'on croit, effectivement, comme vous disiez, notre culture, etc. Et c'est assez marrant de se dire que, effectivement, même la perception d'un phénomène inexpliqué aussi va aller en fonction de ça, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que ça, ce serait une sorte d'interprétation de quelque chose qui peut-être dépasse un peu notre, j'allais dire, vision 3D de quelque chose
et qui... Alors oui, je pense qu'il y a de ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les phénomènes observés... Alors déjà, il faut pour que... Alors après, on a fait des parallèles avec quand on a découvert certaines... tribus amazoniennes qui avaient pas du tout connu la civilisation actuelle. On leur a montré des films et on leur, pour essayer de se rendre compte de ce qu'ils voyaient. Et leur transcription, alors qu'on leur montrait par exemple, des films d'Hollywood, ils voyaient des marionnettes, mais ils n'avaient pas conscience de, ou ils avaient l'impression que... en fait, ils ne voyaient pas ce que nous, on peut voir dans un film. Oui. Donc, tout ça pour dire que la perception, en fait, en fonction de notre culture, elle peut être altérée. Et surtout, pendant les années 50, on voyait beaucoup de soucoupes volantes.
Ouais, ouais.
Donc, en fait, le phénomène s'adapte en fonction de ce qu'on est capable d'imaginer, de concevoir dans notre cerveau.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est ça, c'est très intéressant. Par exemple, le phénomène des enlèvements aux États-Unis qui a vu le jour à partir des années 60 jusqu'aux années 90, où il y a des milliers d'Américains qui disent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Ce genre de rapt, d'enlèvement, alors c'est enlèvement en esprit, mais ils avaient le sentiment, enfin il y a des tas de bouquins là-dessus qu'ils ont été enlevés physiquement. Ça, nous, on le retrouve dans la culture au Moyen-Âge avec le sabbat des sorcières, où les gens se disaient enlevés, tout ça. Donc, c'est intéressant, en fait, parce que c'est la même chose qui se reproduit, sauf que comme les États-Unis, c'est un pays qui est quand même très jeune, mais on retrouve les mêmes schémas. Et en fonction des époques, on retrouve, en fait, au niveau de l'imagerie, c'est quelque chose qui est concevable par le témoin. Mais
selon la science actuelle,
voilà,
selon nos connaissances,
du progrès technologique du moment. En fait.
Ouais. Est-ce que vous d'ailleurs, vous avez vu, témoin d'un...
Moi, j'ai fait une observation en 1990 que j'ai expliqué par la rentrée du troisième étage d'une fusée russe.
D'accord.
Sauf que c'était donc c'était le 5 novembre 90. Sauf que ce soir-là, il y a eu des tas de témoignages. Alors une très grande partie s'explique par... En fait, c'est l'Union soviétique à l'époque, en 90, a lancé une fusée qui avait un satellite de télécommunication. Et il y a une partie du troisième étage de cette fusée, quand elle est redescendue, ça a fait une gerbe d'étincelles très, très visible, très haut dans le ciel. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu une rentrée comme une gerbe d'étincelles. Voilà. Okay. Sauf que ce soir-là, il y a eu des tas de témoignages qui ont vu des choses complètement différentes, pas aux mêmes horaires. D'accord. Donc, c'est ça qui est fou. Et là, je suis en train de lire un bouquin qui est les ovnis au Québec, où le gars, il reprend, il dit « Ouais, en France, en fait, ils se sont trompés, ils ont cru voir des ovnis. » Non, mais enfin, moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Effectivement, à 19h, entre 19h et 19h03, il y a eu cette rentrée. Sauf que quand moi, j'ai des témoins qui me disent « J'ai vu à 10h du matin, j'ai vu quelque chose qui passait au ras du toit. » Ou à 20h15, j'ai vu quelque chose qui avait la taille d'un boomerang qui est passé comme ça et qui est reparti dans l'autre sens. Après, on peut dire que les témoins racontent n'importe quoi. Oui. Mais quand il y a des témoignages comme ça, alors sur peut-être 2000 témoignages, il y a 30 ou 40 témoignages qui racontent autre chose.
Oui, c'est pas balayé par ça. Ouais.
Donc après, il faut arriver à être objectif et pas non plus penser que tous les témoignages sont des soucoupes volantes ou des ovnis, enfin, au sens non identifié. Moi, dans le bouquin, ce que j'ai fait, j'ai volontairement mis des cas pour lesquels j'avais trouvé des explications, des exercices militaires, un ravitaillement en vol d'appareils d'avions de chasse, enfin, des choses. Il y a un cas d'ailleurs que j'ai expliqué très récemment, là, ce qu'on voit sur la couverture, c'est de la foudre en boule globulaire.
Ah oui, voilà. C'était deux pêcheurs, c'est ça, il me semblait.
Non, c'était deux jeunes qui étaient...
Oui, qui allaient à la...
Peut-être deux pêcheurs, oui. Et du coup ils ont vu une boule de lumière qui a disparu. Ils ont fait deux photos. Et en fait, j'ai fait analyser les photos.
D'accord. Et que ça ressemblerait plutôt
par des professionnels de l'imagerie, notamment François Louange, qu'on voit souvent dans des reportages sur les ovnis à la télé. Et effectivement, 99,9%. Par rapport aux photos, c'est de la foudre en boule.
Oui, surtout que je crois que dans l'histoire, c'était après un orage ou après une pluie,
etc.
C'est ça,
c'était au mois d'août, il faisait très lourd, donc tout correspond. Oui, oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la foudre en boule, on ne sait pas trop comment ça intervient. Et ça peut rester plus... Je suis en contact avec quelqu'un qui s'appelle Raymond Piccoli, qui est basé dans le Cantal, et qui, lui, va sortir un autre bouquin, là, sur la foudre en boule, et qui m'avait dit, on s'était vu en 2014 à Paris, quand au Caïpan, quand le CNES nous avait invités avec plein d'ufologues étrangers, Et en fait, il m'avait dit de la foudre en boule, ça peut rester jusqu'à 4-5 jours dans une grange en montagne. Et au bout de 4-5 jours, la boule explose et on ne comprend pas pourquoi la grange a pris feu, alors que ça fait 4-5 jours qu'il n'a pas fait.
Qu'il n'a pas plu, etc. Ouais.
Et en fait, on ne maîtrise pas du tout la foudre en boule. On ne sait pas du tout comment ça se produit.
Ça, c'est assez fou aussi parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a l'impression que tout est expliqué, que la nature est OK, tout le monde sait ce qu'il doit savoir. D'ailleurs, on se rend compte peut-être maintenant aussi avec la pandémie que il y a plein de trucs qu'on ne sait pas faire, etc. Et qu'une chose aussi simple, entre guillemets, qu'une forme de foudre un peu bizarre, aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas ni recréer, ni dire exactement pourquoi là, ça va se créer à ce niveau-là.
Et c'est intéressant parce que dans la foudre en boule, alors j'ai un peu de documentation là-dessus, il y a des phénomènes qui peuvent être... En fait, ce que les scientifiques n'arrivent pas à déceler, c'est est-ce que la foudre en boule a un comportement intelligent ? Parce qu'il y a des cas où la foudre va rentrer dans une maison, va suivre les arêtes des murs, va longer le sol, et va partir par le trou de la serrure. Et il y a on ne connaît pas du tout, c'est un phénomène qu'on connaît très très mal. Et là, il y a un bouquin qui va sortir de Raymond Piccoli, et je crois qu'il aborde un peu le thème foudre en boule avec phénomène non identifié. Donc il va sortir très bientôt là au printemps, donc je l'attends.
Dans votre livre, je crois que vous l'avez sorti en 2006, quelque chose comme ça. Ouais. Justement, je suis directement vers 2005-2006 parce qu'un ami et moi, on a été témoins d'un phénomène, en tout cas pour nous, c'est un ovni parce qu'on ne l'a pas identifié, mais on ne sait pas ce que c'est. Rapidement, c'est juste que on était sur une route d'Albi, en fait, tout simplement. C'était la nuit et en fait, on voit une lumière verte au loin dans le ciel qui descend, qui ralentit. Et qui remonte et qui d'un coup va très loin. Déjà, mon ami et moi, on se regarde et on explose de rire parce qu'en fait, on allait rejoindre des amis et on se disait, forcément, on va leur raconter ce qu'on vient juste de voir et forcément, ils vont pas nous croire, ils vont croire qu'on rigole. Enfin, clairement, vu le mouvement, on se disait, c'est pas quelque chose de normal, quoi. Enfin, si c'était un météore, ça devrait pas remonter, ça devrait pas changer de vitesse à ce point-là, ou même s'arrêter et puis repartir vers le haut, etc. Mais, et en plus, la lumière était verte, donc et tout le truc culture, un peu genre, vous avez vu des martiens.
Il faut savoir qu'il y a très très peu de cas, je crois qu'il y a 2 ou 3 cas où il y a des êtres verts qui sont observés. Mais il y a 2-3 cas peut-être sur 1 million.
Oui, sur tous les gens qui ont témoigné.
Alors, je ne comprends pas pourquoi c'est resté.
Les petits bonhommes verts.
Les petits bonhommes verts, parce que c'est très, très rare. Et en plus, ce sont des cas qui ont une relation un peu avec certains êtres du folklore. Ouais. Qui ressemblent plutôt à des espèces de lutins, ou des gnomes.
Oui.
Et assez curieux parce qu'il y a très peu de cas. Je crois que je suis tombé sur un cas au Pérou. Non, pas au Pérou, au Chili, dans un bouquin là, qui est sorti l'année dernière. Et je crois qu'il y a un cas en France. Enfin, c'est vraiment...
Mais oui, j'imagine que ça, par contre, c'était peut-être la science-fiction de... Je ne sais pas si c'était Ray Bradbury ou des choses comme ça, qui avait créé un peu le fait que les martiens soient verts.
Après, puisque vous parlez de science-fiction, et c'est intéressant aussi, c'est Bertrand Meust que j'avais fait venir en 2004 à Gaillac, et qui est sociologue du folklore. Enfin, je ne sais pas si on peut dire... Ouais, si, sociologue du folklore, qui est professeur de philosophie à Paris-Sorbonne, et qui a ressorti un bouquin sur... qui a retracé des choses qu'il avait écrites il y a quelques années. Et lui, ce qu'il a mis en avant, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qui a été publié par les auteurs de science-fiction dans les BD et les livres de science-fiction des années 30, ça, on l'a retrouvé à l'identique dans les années 60-70. Okay. Donc, c'est-à-dire les raptes d'extraterrestres, les enlèvements, ça, tout ça, dans les années 30,
Tous les enfants qui ont pu lire des choses de science-fiction quelque part dans les années 30, plus tard...
Ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression que ce qui était dans l'imagerie collective des années 30, de la science-fiction des années 30, dans les pulps et tout ce qu'il y avait, surtout aux États-Unis, là, tout ce qui est sorti, c'est ressurgi 30-40 ans après, de manière vraiment dans les médias, mais alors il y a eu des centaines de milliers d'Américains qui disent, moi j'ai été enlevé, et tout ça on le retrouve dans les années 30, Alors, c'est assez curieux.
Oui, on le voit aussi dans votre livre, même si c'est que dans le Tarn, mais il y a cette espèce de changement des choses que l'on voit. Comme vous disiez, années 50, c'est plutôt soucoupe, etc. Ensuite, il y a des espèces de lumières ou des cigares, etc.
Ça fonctionne du progrès technologique en fonction de l'évolution des connaissances. Le phénomène évolue.
Oui. Voilà. Enfin, on a dit soucoupe volante à l'époque parce qu'il y avait eu Roswell. Si ça existait
non,
dans la...
Non, il y avait vraiment des observations les... de soucoupe, hein, vraiment, oui. Avec des trépieds, avec des... vraiment la soucoupe de la soupe aux choux. Il ouais. Y en a eu des tas.
Mais est-ce que, ma question, c'était, est-ce que c'était déjà dans la littérature de science-fiction ou est-ce ça qui a initié déjà... la littérature de science-fiction?
Oui, c'était déjà dans les années 30, voilà. Il y avait déjà des ce genre de témoignages, avec des soucoupes venues de l'espace, avec des grands vénusiens qui venaient mailler la Terre. Okay. Oui, c'est tout à fait. Ou des monstres. Après, il y a l'industrie cinématographique Hollywood avec...
Oui, qui a mis des images dessus.
E.T. l'extraterrestre et tout ça, qui est inspiré de témoignages... réel, quoi. Enfin, E.T. l'extraterrestre, c'est vrai qu'il est quand même bien fait. Rencontre du troisième type, je voulais dire. Voilà. C'est quand même... C'est vraiment retranscrit par rapport au témoignage qu'il y avait à l'époque, quoi. Mais il y a toujours... on dirait que les ovnis, enfin, ce qui est derrière a toujours quelques années d'avance. Et alors, ce qui est assez hallucinant, c'est que il n'y a pas une fois, donc sur des centaines et peut-être des millions de témoignages qu'on a depuis la fin des années 40, il n'y a pas une fois le phénomène a été pris en défaut. Mais pas une fois. C'est-à-dire qu'on n'a rien, on n'a rien à se mettre sous la main. On n'a pas un morceau de soucoupe. On n'a rien du tout.
D'accord. Mais alors, même pour le coup, vous, toutes les rumeurs de tout ce qui s'est passé à Roswell, le fait que certaines personnes, le gouvernement américain ou plutôt les militaires américains aient pu garder secret des espèces d'alliages métalliques ou quoi que ce soit.
Alors, je ne sais pas si ça fait partie... alors, ce qui s'est passé, d'après les dernières infos, ça serait plutôt quelque chose qui se serait écrasé, qui aurait la forme plutôt d'une aile delta qui se serait écrasée à proximité de Roswell.
Ouais.
Alors Roswell, à l'époque, c'est le seul site au monde, sur la planète, qui est doté de bombardiers stratégiques nucléaires.
Ouais.
C'est le seul site au monde. Donc, en plus, ça se passe... Bon, et après, il y a débat, c'est ce qu'on dit dans le bouquin, mais ça se passe le 4 juillet, le jour de l'indépendance. Donc, il y a plein de symboles dans Roswell.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est l'intelligence qui est derrière tout ça, qui a créé, qui a dit, voilà, on vous donne quelque chose pour... ou est-ce que c'est plutôt une fausse piste? Parce que pendant qu'on croit qu'il s'agit d'extraterrestres et que certains disent, ouais, le gouvernement américain, ils ont récupéré des trucs, la zone 51, tout ça, est-ce que c'est pas une fausse piste pour pas qu'on aille chercher ailleurs? Et moi, pour moi, je pense que dès les années 47-48, les États-Unis, ils savaient à quoi ils avaient affaire.
C'est-à-dire ?
Il y a des grands scientifiques qui se sont passés dessus, il y a eu des commissions secrètes qui ont étudié tous les témoignages et tout. Il faut savoir que pourquoi aussi il y a eu tous ces phénomènes-là en 46-47.
Hiroshima et Nagasaki.
1945.
Oui, voilà.
L'homme fait péter deux bombes nucléaires au Japon.
Ouais.
Et bizarrement, quelques semaines après, on commence à voir des phénomènes qui ça s'amplifie. Est-ce que derrière, moi je pense aujourd'hui que la planète elle-même, pareil des bouquins là-dessus en disant que la planète est un être vivant. Ouais. Alors est-ce qu'il y a une énergie, une autre intelligence qui est propre à la planète et qui réagit par rapport au mal qu'on lui fait, à la pollution, au nucléaire, à tout ça, et qui est un peu comme le corps humain essaye de se guérir et nous voilà on vit sur la planète mais on n'a pas conscience qu'il y a autre chose, comme peut-être les fourmis n'ont pas conscience de l'espèce humaine, enfin voilà, je schématise. Et est-ce qu'il y aurait pas autre chose qu'on peut pas, et parce que les phénomènes ovnis, en fait, l'imagerie qu'on nous montre, c'est des choses qu'on peut concevoir, mais il y a autant d'extraterrestres qu'il y a de témoins.
Oui.
Bon, après, il y a des schémas, des plusieurs archétypes de... Alors, il y a les grands blancs, il y a les petits gris, il y a les...
Oui,
bon,
oui.
Après, il y a des monstres, il y a des robots. Bon, il y a Eric Zurker qui a d'ailleurs fait la préface de mon bouquin qui va sortir en juin. qui a classifié tout ça. Il y a plusieurs schémas, mais effectivement il y a autant d'extraterrestres. Enfin, quand je dis extraterrestres, je ne crois pas une seconde, hein, mais c'est plutôt des
voilà, autant d'entités,
des entités qui sont montrées ou qui agissent, mais qui en fait, sont peut-être pas réelles.
Quoi. Oui, c'est juste qu'il y a autant d'interprétations que voilà. De témoins. Et est-ce que c'est pas, enfin, quelque chose qui veut communiquer avec nous, ou qui communique avec nous, et que comme on a chacun son bagage, on interprète le. En fait, oui, c'est-à-dire que là, si vous et moi, bah, j'en sais rien, vous, moi, on a et un Américain, il y a quelqu'un qui vient et qui parle une langue qu'on connaît pas. On va interpréter ce qu'il dit de manière différente. On va
c'est le peut-être voir une forme de contact. Alors, après, il y a eu pas mal de bouquins, de films qui sont pas mal faits. Je pense au film, justement, Contact, avec... j'avais parlé du nom de l'actrice. Voilà, y a, peut-être c'est ça. Peut-être c'est une forme de contact. Et actuellement, je pense qu'on n'a pas la capacité, au niveau de notre cerveau, oui. de notre corps biologique, de comprendre de quoi on a affaire. Donc après, effectivement, il y a peut-être des fausses pistes qui sont lancés par les gouvernements pour dire pendant qu'on croit aux extraterrestres, ben, du coup, on ne s'intéresse pas à d'autres choses.
Ouais.
Sauf que il y a plein de domaines qui se relient avec les capacités du cerveau, la vie après la mort, les fantômes, il y a plein de choses. Les apparitions de la Vierge, ça c'est super intéressant aussi parce que moi, j'ai pas mal étudié, j'ai beaucoup de bouquins là-dessus. On s'aperçoit que dans les schémas d'apparition, c'est la même chose que des phénomènes ovnis.
D'accord.
C'est-à-dire que au départ, il y a par exemple sur Fatima, les observations de Fatima ou même Notre-Dame de Lourdes, il y a des témoins, plusieurs témoins qui voient des choses. Et après l'Église,
dit c'est la Vierge.
Voilà,
en fait,
c'est l'apparition de la Vierge. Ah, ouais. Mais il y a eu avant des apparitions de dames lumineuses.
Mais de manière, ça
s'apparente beaucoup au phénomène ovni. Tout ça se relie un peu.
Mais après, de manière générale, c'est vrai que si effectivement, on croit que, on se dit qu'il y a des interprétations différentes, on peut se dire que c'est peut-être quelque chose qui a toujours existé concomitamment avec l'être humain, et c'est juste qu'on lui a donné différentes visions. Ouais, on a pu dire que c'est Dieu, le diable ou ce qu'on veut en fonction de sa façon de voir le monde, quoi.
Après, ça, c'est vrai que ça permet de s'intéresser à plein de choses. Et il faut aussi savoir, moi c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul quand j'ai arrêté la revue en 2017, parce que ça me prenait beaucoup de temps et puis au bout d'un moment, tu te déconnectes un peu de la réalité aussi.
Oui, oui, oui.
Et donc voilà, bon, il faut...
C'est bien de se re-ancrer un
peu. Mais c'est bien d'avoir conscience quand même qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer.
Oui.
Bon, après, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus...
Après, c'est intéressant parce que ce soit une expérience... parce qu'en fait, c'est entre guillemets un peu la nouvelle religion dans le sens où si maintenant on se dit la science peut tout expliquer, dès qu'on a quelque chose qui est inexpliqué, y a un côté d'humilité par rapport à l'être humain et ses capacités dans le monde. C'est-à-dire que ça ramène tout de suite à un niveau où, ah oui, peut-être... Nous ne sommes pas juste le centre de l'univers. Et peut-être que moi qui vais travailler aujourd'hui, ce n'est pas si ultra important que ça le schéma général.
Ça permet de relativiser beaucoup de choses aussi. Et là, les scientifiques, ils découvrent des exoplanètes. Ils se font, par rapport à la connaissance qu'on a aujourd'hui de l'univers et du monde qui nous entoure, on s'aperçoit qu'on n'est rien du tout. Qu'on entend qu'il y a des... je ne sais pas combien de milliards de planètes, rien que dans notre galaxie, qu'il y a des milliards, des milliards, des milliards de galaxies, on se dit... et puis même là, dernièrement, j'ai entendu qu'ils remettaient en cause peut-être la théorie du Big Bang. En fait, on ne sait pas d'où on vient, ouais. On ne sait pas où on va, et la vie, en fait, quel est le but de la vie, quoi.
Ouais.
Il y a tout ça, et quand on s'intéresse au sujet OVNI, je pense qu'il y a tout ça
qui s'entrechoque un peu. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, par exemple, la science, elle peut nous dire, bah voilà, ce mois-ci, on a découvert 15 exoplanètes, etc. Mais donc, on se dit factuellement, oui, peut-être il y a d'autres vies dans l'univers, enfin, sûrement, etc. Mais nous ne sommes pas le centre. Mais émotionnellement, chacun, psychologiquement, ça ne nous touche pas tant que ça, en fait. Alors que si la personne voit quelque chose d'incroyable, tout de suite, elle va plus ressentir le « Ok, je ne suis pas le centre de l'univers », alors qu'elle pourrait lire 15 articles de Science et Vie. Elle ne va pas ressentir.
Mais la plupart des témoignages, c'est rigolo parce que c'est très souvent ce qui revient, c'est « Oui, je suis persuadé qu'il y a de la vie ailleurs » ou alors c'est des messages qui sont qui sont donnés aux témoins, il faut faire le bien.
Enfin, ouais,
et ça, on retrouve dans tous les messages religieux liés aux apparitions de la Vierge, tous les phénomènes un peu mystérieux, enfin, les phénomènes de miracles, par exemple. Pareil, bah, les miracles, c'est des choses... Enfin, voilà, c'est, en fait, il y a un témoin qui a des handicaps physiques. Et il va avoir une apparition, alors la Vierge Marie, on va dire, mais dans le phénomène OVNI, il y a des cas aussi. Moi, j'avais enquêté dans l'Eure à l'époque, où un gars, il a vu un phénomène. Et le lendemain, au boulot, juste en prenant, alors en plus, il bossait dans une boîte informatique, juste en prenant un disque dur et en le posant sur une table, il a effacé toutes les données.
Il a démagnétisé, ouais.
Il a effacé toutes les données. Et il disait, je ne comprends pas. Alors, en plus, il a des problèmes au boulot. Et la veille, il avait vu un truc. Il a eu peur. Il y avait des histoires de... il y avait plein de phénomènes comme ça qui... Alors, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais trouvé d'explication. Mais voilà, quand on va voir les... Moi, ce qui me plaisait dans les témoignages, quand j'allais faire les enquêtes, c'est d'une part de rencontrer les témoins, voilà, de... Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas retranscrire par écrit. Quelqu'un vous dit, voilà, moi j'ai vu ça, ou ils n'osent pas me parler.
Oui, oui.
Je vous dis ça.
Les hésitations, bon, voilà. Les silences.
Et puis après, c'est aussi les rencontres avec les gens qui s'intéressent au sujet. Parce que malgré tout, dans le lot, il y a pas mal de copains quand même. Ouais. Donc ça, c'est sympa aussi. Et puis d'échanger sur des choses qu'on...
Et là, le travail que vous êtes en train de faire avec votre collègue, comment il s'appelle, pardon,
Alors, le collègue s'appelle Stéphane Royer.
Stéphane Royer.
Le bouquin va s'appeler « OVNI et nucléaire, sommes-nous sous surveillance ?»
Et parce que vous en parliez là, c'est vrai que tout ça, on a l'impression, en tout cas dans la version un peu moderne, scientifique, ça a commencé à partir de 45. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Parce que on a pu parler pas mal d'un dernier documentaire qui est sorti, qui s'appelait The Phenomenon, où justement il y avait une part belle qui était donnée aux militaires et à plusieurs témoignages, comme vous le disiez, de silos nucléaires où il y a eu des choses qui ont été désarmées, alors que bon, et après avoir vu des lumières dans le ciel. Alors que bon, c'est clairement le truc le mieux gardé
au monde. C'est clair, c'est clair.
Tout le monde est sur le qui-vive et tout le monde tombe aussi sur le cul parce qu'ils sont là. Genre, ah ok, donc le truc où normalement il faut avoir deux clés, deux codes et compagnie, tout est inactivé en 4 secondes. Est-ce qu'il y a des choses aussi en France, ou même d'ailleurs, j'ai envie de dire, en fonction des sites d'essais nucléaires, ou qu'on sait, parce que la France, pour le coup, était une des premières...
On n'a pas tout investigué, mais on a eu quand même pas mal d'infos. Tous les sites, alors autant les sites militaires qui abritent des bombardiers stratégiques ou des têtes nucléaires ou les bases de sous-marins. En France, à Brest, l'île Longue, il y a eu des témoignages d'ovnis, entre guillemets, observés à proximité. Souvent, quand il y avait des sous-marins qui étaient là.
Ouais.
Parce qu'ils ne sont pas toujours, au port.
Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, en France,
pareil à Toulon.
En tout cas officiellement, notre seul arsenal nucléaire, il est dans les sous-marins. C'est ça, hein, je crois.
Eh bien, il y a aussi, après, sur le plateau d'Albion, il y a aussi des
missiles.
Il y a des missiles qui sont entreposés.
Ah, ok.
Donc, il y a eu ça. Il y a eu, quand il y a eu, dans les années 60, au Sahara... en Algérie, il y a eu les premiers essais nucléaires, il y a eu de suite des observations.
Ah.
Donc tous les sites nucléaires ont été à un moment donné visités. Donc ça, c'est ce qu'on met en avant dans le bouquin. Alors, mais dans tous les pays du monde, enfin partout où il y a des puissances nucléaires, il y a eu des choses observées. Après, voilà, il y a des pays comme les États-Unis ou la France, on a eu beaucoup plus d'infos que sur d'autres sites. Mais en Iran, il y a eu aussi des bases militaires qui ont été avec des témoignages assez hallucinants. En Ukraine, enfin, la partie russe frontalière avec l'Ukraine aussi, il y a des complexes nucléaires, il y a des choses qui ont été vues. Enfin, voilà. En fait, aussi bien les porte-avions nucléaires, les sous-marins nucléaires, les sites civils aussi, tous les sites civils, les centrales nucléaires. Bon, après, voilà, on n'a pas pu tout lister. Mais nous, ce qu'on voulait mettre en avant dans le livre, c'est que les ovnis s'intéressent aussi au nucléaire. Et c'est vrai qu'au départ, moi, quand je me suis intéressé au sujet, ça ne me sautait pas aux yeux. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu août 45 avec Hiroshima et Nagasaki, et après, ça a été la déferlante, quoi. Mais vraiment, à partir de janvier 46, En Scandinavie, ça, il commençait à y avoir plein d'observations. 47 aux États-Unis, après ça a été 54, ça a été en France et en Italie. Et toutes les grandes puissances ont eu des, mais quand je dis visiter, c'est vraiment, c'est pas la simple lumière, quoi. C'est des choses qui s'opposent au sol, qui bloquent, il y a des villes entières qui ont été coupées d'électricité sans explication, et il y a plein de phénomènes qui sont observés toute la nuit. Enfin, il y a eu, tous les pays du monde ont été, à un moment donné de leur histoire, ont eu des vagues de témoignages.
Ouais, j'avais même vu, je crois qu'il y avait, c'était Gaillac, c'est ça, en 54, oui. Ou quelque chose comme ça, je vois qu'il y a eu des centaines de personnes qui avaient pu 52, voir, ouais. Ouais. Et que même là, vous avez retracé en gros le parcours, parce que ça viendrait, les premières lumières étaient en Espagne, et en gros, ça remontait jusqu'à
Après,
Lyon.
Après, ce qui était intéressant, ouais, c'était de retrouver un peu aux mêmes dates, ou alors dans les... Parce qu'en fait, on ne sait pas comment... on ne sait pas s'il faut chercher par date, par lieu, par forme. Donc c'est très compliqué. Donc à une époque, dans les années 60, il y avait Aimé Michel qui avait dit « Ah oui, mais en fait, il avait mis en place l'orthoténie, donc il traçait des lignes droites, et ça passe par telle ville, parce que ça suit une ligne. » Mais bon, ça a été avéré comme pas une bonne piste, mais on ne sait pas en fait dans quelle direction il faut chercher.
Ouais.
Et donc en fait, et le problème c'est que, eh bien, des témoignages, il y en a. Alors c'est un peu par vague. Là actuellement, on n'entend plus trop parler là depuis quelques années. En 54, il y a eu pendant 3-4 mois, tous les jours il y avait des observations de soucoupes volantes avec des êtres, enfin des trucs complètement absurdes. Après, en France, il y a eu dans les années 73-74, là, il y a eu, pareil, beaucoup, beaucoup de témoignages.
Nouvelle vague, ouais.
Et à l'époque, il y avait beaucoup d'enquêteurs. Actuellement, il y a aussi qu'il y a très peu d'enquêteurs. C'est un sujet qui n'intéresse personne. Ouais. Enfin, moi, j'avais une revue pendant 22 ans. Au mieux, j'ai eu 140-150 abonnés.
Ouais.
Mais ça n'a jamais décollé. Alors, j'avais des gens partout, hein, en Suisse, au Canada, en Belgique... voilà, j'avais
mais est-ce que c'est pas quelque chose qui revient un petit peu, parce que moi je le vois, c'est-à-dire qu'en gros il y a maintenant, j'ai l'impression, un petit peu, parce que il y a des témoignages de gens ultra crédibles et des analyses et des choses, voilà, qui sont plus ou moins déclassifiées. Encore une fois, on en revient à cette vidéo du Pentagone, etc., où on se dit bon, peut-être qu'on est maintenant arrivé à une espèce d'ère où les gens peuvent tranquillement et scientifiquement se dire bon, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas, et ça vaut peut-être le coup de peut-être d'arrêter d'être obligé d'investiguer, j'allais dire, eux-mêmes, et que peut-être qu'on peut nous créer
commissions. Il y a toujours eu des commissions plus ou moins officielles, hein,
oui.
Depuis le début.
Oui.
La France est un des rares pays à avoir un service quand même
dédié,
qui est le GEPAN. Au départ, ça s'appelait le GEPAN, G-E-P-A-N. Après, c'est devenu le CEPRA. Maintenant, c'est redevenu le GEPAN, G-E-I-P-A-N. Mais il y a un service. Bon, il y a une série, d'ailleurs, qui est sortie là-dessus.
Oui,
un peu rigolote, mais bon, voilà, ça reprend quand même un peu le truc. Mais ouais, il y a quand même des services officiels qui existent. Enfin, les dépositions en gendarmerie, ça existe. C'est pris au sérieux quand même.
Hein. Ouais.
C'est pris au sérieux parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire. Quoi.
Oui, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que, est-ce qu'on n'est pas maintenant aujourd'hui dans un monde où, voilà, si on nous disait certaines choses, j'allais dire semi-énormes, ça nous briserait pas notre vision de nos cultures ou de nos sociétés, comme peut-être ça pouvait l'être dans les années 60.
Je sais pas, parce qu'en fait, le souci, c'est c'est vrai que je pense que les gouvernements ne sont pas trop au courant non plus. Et c'est pour ça que, il y a certains ufologues qui disent « Ouais, les gouvernements, ils nous cachent des choses. » Je pense qu'en fait, ils en savent guère plus. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... pour dire quoi, qu'il y a des phénomènes, effectivement. Alors, l'autre jour, j'ai vu un reportage d'un spationaute français, alors je ne sais plus quel c'est, qui disait, je crois que... Enfin, il est déjà allé sur la station internationale, la station orbitale. Il a dit, mais bon, il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas. Et donc, bon, voilà, c'est vrai que c'était le discours qu'on n'avait pas il y a 20-30 ans. Mais une fois qu'il a dit ça, on ne sait toujours pas à quoi on a affaire et pourquoi. Est-ce que ça... Enfin, moi, je pense que ça a quand même un rapport avec l'être humain. Et au moins le fonctionnement du cerveau, parce qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de phénomènes, il y a des zones du cerveau qui sont déconnectées, qui sont comme éteintes. Donc il y a des témoins qui se sentent comme paralysés et qui voient une scène qui est jouée, qui est souvent très absurde, qui correspond à rien du tout. Il y a des témoignages où on voit des soucoupes avec des extraterrestres qui descendent avec une échelle en corde.
Oui, oui.
Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais alors, c'est vrai qu'au début, ça paraissait, bon voilà, les témoins, mais c'est complètement hallucinant, ou ils voient deux êtres en train de ramasser trois cailloux.
Oui, pourquoi en fait?
Si on essaye de comprendre, une civilisation qui viendrait de je ne sais pas où, ils viennent, ils ramassent trois cailloux. Ça n'a ni queue ni tête. Oui. Donc, dans les témoignages, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui sont complètement absurdes. En fait, c'est... Plus c'est absurde et plus c'est crédible, en fait. C'est un peu ce que nous, on a conclu de tous ces témoignages-là, parce qu'on a des centaines et des centaines de témoignages. Oui. Mais bon, au final, comme je disais tout à l'heure, on n'a toujours aucune preuve de rien du tout.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a zéro effort réalisé? Parce que là, si on se disait, là, il se passe quelque chose qu'on ne sait pas.
Il y a eu, pendant la vague belge, l'armée, qui était en alerte, l'armée belge qui était en alerte, qui a travaillé avec l'association SOBEPS, et qui ont dit, voilà, dès qu'il se passe un truc, nous, on a deux F-16 prêts à décoller. Bon, il y a des tas de témoignages aussi où des pilotes sont à la poursuite d'un truc, et tout d'un coup, au moment de tirer sur l'OVNI, mm-hmm. les commandes ne répondent plus. Donc, il y a des choses... Ou alors, le pilote s'approche de l'OVNI, au moment où il croit qu'il va pouvoir l'intercepter, le truc s'en va à une vitesse de la lumière. Oui. Quoi.
C'est pas comme si c'était un animal qu'on pouvait voir ou qui faisait sa vie. Il y a un rapport toujours avec le témoin. Et justement, le dernier commandant, encore une fois, le F-35 avec le pilote en 2017, qui, en fait, il se trouve qu'à un moment, l'OVNI qu'il pourchasse donc, devant lui quasi disparaît. Et se retrouve donc derrière lui à ses exactes coordonnées de début de mission. Donc il y a un truc de, comme par hasard, c'est pile l'endroit où lui, enfin en gros, c'est son
mais
truc
c'est
de coordonnées scotché.
Mais c'est ça qui est hallucinant, et ça c'est Eric Zürcher qui l'a mis en avant dans son dernier bouquin, là, et qui est un ufologue niçois, et qui a été très discret pendant des années, mais qui a une très très bonne vision, et c'est le côté élusif du phénomène, c'est-à-dire que jamais, 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 il pourra être pris en défaut. Ouais. Et ça, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire, il n'y a pas une fois, il n'y a aucune faille. Alors,
est-ce que c'est un peu comme ça ressemble à des rêves, en fait. Ça ressemble à un rêve où la personne court et n'arrive jamais.
Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des traces au sol. Il y a quand même des choses qui sont prises sur les radars, qui sont filmées. Mais on sait qu'au final, on n'aura jamais le dernier mot. Alors ça, c'est très frustrant. Et alors, c'est vrai que je parlais tout à l'heure en fait, les pilotes voient plutôt des ovnis aux capacités aéronautiques qui dépassent l'entendement. Un agriculteur, il va avoir un truc qui se pose au sol. Enfin, voilà, il y a une adaptabilité du phénomène. Et un peu pour nous, je pense, pour nous laisser penser qu'effectivement, il y a autre chose. On n'est pas tout seul sur la planète, parce que ces phénomènes-là, ils ne sont pas dans l'espace.
Oui,
ils sont vraiment
ils sont
propres
notre,
à la planète.
Ouais.
Et voilà, peut-être... Alors, moi, j'ai fait le lien, chaque fois je dis ça, par rapport à... elle expliquait une colonie de fourmis rouges, le fonctionnement du moteur d'une Ferrari. Elle n'a aucune conscience déjà de nous. Et nous, je pense qu'on est un peu aussi par rapport à ce qui est derrière cette intelligence. Oui.
C'est peut-être une sorte de petit doigt dans notre fourmilière à nous.
et peut-être que nous, on voit l'univers comme ça, et puis en fait, il y a autre chose là, et on ne le voit pas, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est marrant, parce qu'il n'y a jamais eu de « Ah tiens, Hubble a vu une lumière », c'est toujours chez nous.
Il y a aussi que le cerveau humain, il voit 65% de ce qui existe. C'est-à-dire que les infrarouges, oui. Les rayons gamma, les ultraviolets, tout ça, on ne le voit pas, mais ça existe. Voilà. Donc, en fait, l'œil humain, il ne voit pas tout non plus. Tout ce qui existe, on ne le voit pas. Et c'est vrai que les phénomènes, certains phénomènes qu'on voit, peut-être qu'en fait, on ne voit qu'une partie de ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il y a, après...
Oui, sans compter, même, j'allais dire, oui, au-delà, pour aller exercer un peu juste la, notre pensée. Au-delà juste de la lumière, on ne voit pas non plus les ondes sonores. On voit plus, il y a beaucoup de choses qu'on ne, voilà, où on a une perception qui est limitée. Est-ce que vous, vous avez une piste, enfin, votre sentiment à vous, parce que clairement, il n'y a personne qui sait ce que c'est. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la Terre elle-même a été une entité vivante? Est-ce que vous pensez plutôt à ça?
Ou comme un fluide énergétique, en fait, qui est peut-être juste une autre forme d'intelligence ou une autre forme de vie qui est propre à la planète, voilà, dont on n'a pas conscience, comme voilà, il y a les insectes, il y a les animaux et il y a les humains. Et peut-être il y a autre chose ou peut-être encore d'autres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne pense pas que... Parce que l'hypothèse extraterrestre, s'il n'y avait qu'une forme d'ovni, entre guillemets.
Oui, c'est vrai qu'on dit extraterrestre, mais en fait, c'est terrestre, en fait.
Oui,
c'est terrestre.
En fait, après, nous, on est issus de... Visiblement, d'une comète et qui aurait amené des cellules et qui aurait permis d'amener la vie. Enfin, ça, c'est tout à fait possible. Mais dans le cadre du phénomène ovni, moi, je pense plutôt à une conscience planétaire, à quelque chose qui réagit en fonction de... Parce que c'est qui est curieux, c'est qu'à partir de 1945, il y a des bombes atomiques qui pètent dans l'atmosphère. Bon, il y a pas mal d'essais nucléaires aussi. Hein, il y a eu beaucoup d'essais nucléaires. Je crois que la France a fait plus de 500 beaucoup. Essais nucléaires.
Ouais, et justement, comme par hasard que vous disiez Sahara, mais aussi Tahiti,
Il y a eu plein de témoignages de phénomènes. Et là, c'est vrai que depuis un moment...
Oui, depuis qu'on a décidé de désarmer.
Et il y a moins d'observations. Ouais. Il y a très peu d'observations. Enfin, après, moi, je suis toujours en contact avec quelques associations et tout. Bon, il se passe des trucs, mais après, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Hein. Il y a beaucoup de lanternes thaïlandaises. Les gens voient des lumières, ils s'imaginent qu'ils voient un truc extraordinaire. Bon, voilà. Mais je pense qu'il y a une corrélation avec ça, peut-être avec le côté conscience planétaire, je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Voilà, après... Il faut garder les pieds sur terre et pas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes dans le milieu qui. Moi, au début, j'étais partisan de l'hypothèse extraterrestre. Ouais. Mais je me suis vite aperçu que.
Ouais.
L'explication la plus simple, quand même, c'est que. Ben, je sais pas, peut-être que le gars, il a vu un avion, il a vu une fusée éclairante, mais voilà.
Est-ce que, d'un point de vue personnel, le fait d'avoir parlé à autant de personnes qui avaient des choses à raconter comme ça, ça a pu. J'allais dire un peu affûter vos sens sur le fait de savoir quand quelqu'un raconte un peu
quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Bon, alors ce qui est compliqué, c'est qu'il y a certains témoins qui sont pas capables d'expliquer ce qu'ils ont vu. Alors déjà, ça m'est arrivé notamment un témoignage sur Albi.
Ah, vous voulez dire même pas savoir dire c'est une lumière ou quoi que ce soit, c'est...
Des fois, c'est très très compliqué. Moi, j'ai fait un témoignage, je me rappelle, je suis allé chez le gars, je suis resté 10 minutes, je suis reparti.
Ouais.
Parce que je dis, bon, c'est un voisin qui m'avait dit, il a vu un truc. Ah, je dis, bon, je viens par rapport... Eh oui, mais c'était là. D'accord, ouais, alors c'était quand... Eh mais l'autre jour. D'accord, ok. Eh mais c'était comment? Eh mais c'était comme ça, là, ça fait un truc, là, comme ça, et voilà. Ok, et j'ai rien pu en tirer.
Oui.
Donc j'ai dit, bon, ok, merci, je suis parti, quoi. Parce que... Et d'autres, il y a des témoins, j'ai à l'inverse, un autre témoignage. Alors, mais c'est des fois des trucs hallucinants. Je vais à la poste, de Gaulle, là, où il y a la fac, à Albi. Et je sors de la poste, et là, il y a un gars, il me dit, vous n'êtes pas Didier Gomez? Mais je dis, si. Il me dit, voilà, je suis instituteur, j'ai fait un témoignage, j'ai vu comme un triangle dans le ciel, et j'ai fait un rapport. Et alors, il me donne un rapport, mais un truc qu'il avait pris sur le GEPAN, un témoignage, je l'ai quelque part, je sais plus où, et j'ai publié ça dans Ufomania, de toute façon, et le gars, il y a un truc, il y a 20 pages, mais le truc...
Très scolaire, le vrai prof, quoi.
Très scolaire, mais super précis, quoi.
Ouais, ouais.
Et alors voilà, alors après je suis allé chez lui, le gars il est esthète, il est sur la Bastille de Lévis. Voilà, alors à l'inverse, il y a des trucs très complets et d'autres, alors on ne peut rien tirer.
Oui,
et je ne sais pas quel est le cas. Bon, a priori, le pépé là qui me disait j'ai vu un truc, c'était comme ça, c'était là. Alors je dis, c'était quelle grosseur? Ouh, comme ça, gros comme ça. D'accord, mais combien? 10 mètres, 20 mètres? Enfin, je sais pas.
Oui, bien sûr.
Ouh, oh, je ne sais pas. Oui, oui. Ouais, il laisse tomber. Oui, mais bon, c'est intéressant.
Mais oui, c'est ça, parce que... Et combien il y en a comme ce Pépé, ou j'ai envie de dire même comme moi, d'ailleurs, avec mon pote, où on voit quelque chose, je pourrais pas dire quelle distance c'était, je pourrais pas dire quelle grosseur c'était.
Surtout la nuit, c'est très dur de savoir.
Voilà, et bon, après lui, peut-être que voilà, il y a des problèmes de description. Mais
après, ce qui m'intéresse, c'est quand le témoin me dit, voilà, j'ai vu un truc, j'ai eu peur, je suis allé témoigner à la gendarmerie. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'il a vu, c'était extraordinaire. Oui. Mais déjà, il fait la démarche d'aller à la gendarmerie.
Oui, oui.
Bon, déjà, le gars...
Mais justement, c'est déjà un filtre. Parce qu'au final, malgré tout, combien il y a de gens qui n'en ont pas spécialement parlé autour d'eux, etc., et qui ont quand même vu quelque chose,
en fait. Oui, oui, mais
énormément. Parce que je me dis... vous, c'est des gens. Il y a eu la gendarmerie, donc il y a eu un rapport, il y a eu...
Alors, faites l'expérience à un repas de famille ou une soirée. Faites une expérience. Il y a toujours quelqu'un, alors je ne sais pas si vous dites, il y a 15 personnes, il y a toujours quelqu'un qui aura vu quelque chose ou qui connaît quelqu'un
qui a vu quelque chose.
Ouais. Et pourtant, personne n'en parle. Oh, mais ça ne m'intéresse pas. Ah, mais par contre, je connais mais ma mère ou mon voisin, il a vu ça il y a quelques années, ou je connais quelqu'un qui est... J'en ai eu la preuve dans le cadre de mon boulot, où il y a des collègues qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, bon, moi, telle année, j'ai vu un truc, mais par contre, t'en parles pas. Ou t'es, je connais quelqu'un, va voir là, à la ferme, là. Mais tu dis pas que c'est moi. Hein, et j'ai eu des tas de témoignages comme ça.
Ouais.
Et un peu sous le manteau, quoi.
Mais c'est un petit côté de tabou.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Comme si on allait perdre notre travail parce qu'on a vu une lumière.
Il y a eu des cas où il y a des témoins qui... Parce que c'est parti de la presse.
Ah,
oui. Extraterrestres, il y en a qui se sont fait virer.
Ah ouais. Donc il y a un vrai le tabou.
Il y a un vrai risque.
Et ouais, est réel parce que.
Puis en fonction du boulot qu'on fait. Enfin, c'est vrai que là, moi, les témoins qui sont avocats, tu perds en crédibilité. Si c'est toi qui avais les ovnis, t'es pas. Bon voilà, il y a toujours ce côté-là, le côté risible un peu. Après, c'est vrai qu'il y a eu toutes les émissions de Chavanne et tout ça qui n'ont pas aidé.
Oui, oui.
Enfin, tous ces trucs-là où ça passe à la télé, tout le monde rigole un bon coup. Mm. Bon, parce que de Chavanne, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il montait des trucs style « il y a une soucoupe volante ». Et après, il faisait des montages où on ne voyait pas les questions qu'il posait. Alors,
par exemple,
il disait bon, « alors, qu'est-ce que vous pensez de la soucoupe là, qui a atterri à côté de chez vous ?» Alors, ils avaient monté une fois cette soucoupe en carton et tout. Et après, ils enregistraient quelqu'un d'autre qui disait « alors, moi, devant chez moi, il y a plein de camions qui passent. La maison, elle a tremblé, tout ça, parce que j'ai les camions qui passent à côté, tout ça. » Et il coupait ce truc-là. Et le gars qui lui disait « alors, la soucoupe et tout. » « Ah oui, alors, les maisons tremblaient. » Alors du coup, tout le monde rigole un bon coup parce que le gars, il passe pour un rigolo. Et en fait, à une époque, ça a fait du mal, tous ces témoignages-là aussi. D'accord. Après, par contre, il y a eu Jean-Claude Bourret quand même qui avait rencontré le ministre de la Défense, qui a récupéré les archives de la gendarmerie. Dans les années 70, 77, là, il y a eu beaucoup, pratiquement tous les mois, il y avait un bouquin qui sortait. Ouais. Et après, aux années 80, 90, ça a été le côté... c'est les petits martiens, les gens ils ont trop picolé, ils voient des trucs. Bon, voilà. Bon, moi j'ai essayé de, quand j'étais dans l'association et même à travers le bouquin, d'amener un côté sérieux, quoi. J'ai essayé de m'en tenir au fait, d'être le plus cartésien possible, parce que justement je voulais pas avoir cette étiquette un peu farfelue.
Oui, oui, de farfelue. Ouais,
c'est pareil.
Mais c'est déjà assez intéressant, ne serait-ce qu'avec juste de relater un témoignage. Ça ne veut pas dire que le témoignage est vrai, d'ailleurs, ou quoi que ce soit.
Et puis, il y a des témoignages que j'ai récupérés.
Je me rappelle
d'un témoignage, le gars qui voit un triangle, là, avec à l'intérieur, comme un abdomen de guêpe. Ce gars-là, en fait, j'ai pu avoir son témoignage. Alors, c'est toute une histoire parce que en fait, il faisait partie d'un club de foot. Le président du club de foot, il avait un café et moi, j'ai amené le courrier. Donc, j'ai posé des questions. Il m'a dit, c'est un tel, sauf que je n'avais pas son adresse. Et ce gars-là, par un concours de circonstances, en fait, il avait sa fille à la même école que la mienne. Et du coup, j'ai pu avoir son témoignage. Mais surtout, il n'a pas voulu qu'on donne son nom, pas du tout voulu dire où il habitait, tout ça. Et alors, j'ai eu le dessin, il m'a fait un dessin. Après, on a fait une retranscription de ce qu'il avait vu.
Bouquin, ouais. Est-ce que là, vous vous dites, ce serait quand même plus facile, avec les moyens techniques d'aujourd'hui, pouvoir aller envoyer un petit message sur Facebook
mais d'ailleurs, ce bouquin, j'ai mis 4 ans et demi à l'écrire.
Ouais.
Parce que j'ai passé un temps fou entre écrire, avoir des réponses, rencontrer les gens et tout. et aller sur les lieux. Et c'est vrai que maintenant, enfin, je vois, même au niveau de mon boulot, ça va. Enfin, en une journée, on fait ce qu'on faisait à l'époque en 3 semaines. Quoi. Et c'est vrai qu'avec les téléphones portables, les mails, on envoie un mail, on a la réponse quasi de suite. C'est vrai qu'à l'époque, ouais, ça prenait du temps. Tout prenait du temps. Quoi. Mais bon, c'était. Mais je trouve que maintenant, le problème d'Internet, c'est que les gens sont persuadés que tout est sur Internet. Et que. Enfin, moi, j'ai vu un peu la différence, c'est qu'à l'époque, quand j'ai commencé à Paris, il y avait peut-être, en France, il y avait à peu près 120 associations. Et il y avait à peu près 30-40 associations qui publiaient quelque chose. Et quand j'ai arrêté, moi, en 2017, il n'en reste plus qu'une.
Ah ouais.
C'est Lumière dans la nuit.
D'accord.
Et il n'y a aucune revue en France qui publie des enquêtes. Enfin, ça n'existe plus, quoi. Ouais. Parce que tout est sur Internet, donc tout le monde fait la sienne, quoi.
Tout est un peu éclaté, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut faire ça. Ou même, d'ailleurs, on pourrait se dire...
Tout le monde peut s'improviser,
chacun raconte son histoire dans son truc et il n'y a rien qui centre tout ça, quoi, en fait.
Et le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus trop d'associations. Il y a très peu de gens qui s'intéressent au sujet, donc il n'y a pas de... J'avais un copain qui bossait dans la presse. Il m'avait dit, il y a 3 magazines qui sortent tous les mois sur Mylène Farmer. Il y a 8 magazines qui sont publiés tous les mois sur La Pêche. Ouais. Il m'avait dit, mais les ovnis... Après, il y a des trucs. Il y a des trucs dans les kiosques, d'aller chez les marchands de journaux. Mais bon, enfin, voilà, c'est l'Atlantide, c'est un peu tous les sujets. Mais vraiment, sur l'ufologie, ça n'intéresse personne.
Ouais.
Ça n'intéresse personne parce qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc, c'est frustrant. Quoi.
Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire en particulier. Bah déjà, votre livre.
Alors, mon livre, il va sortir. Donc, je l'ai écrit avec Stéphane Royer, qui est responsable des repas ufologiques de Paris. Et donc, il va sortir chez JMG, donc Jean-Michel Grand-Cyre, JMG éditeur, qui est un gros éditeur qui sort des bouquins quasiment tous les mois sur le sujet, mais pas que sur les ovnis, sur le paranormal en règle générale, et qui édite la revue aussi Parascience. Donc voilà, c'est un éditeur qui... Donc du coup, le bouquin, on va le trouver dans toutes les FNAC, dans toutes les bonnes librairies. Et voilà, donc c'est sur le thème ovni et nucléaire. Donc on essayait de mettre en avant le fait que le sujet ovni s'intéressait, enfin ce qui est derrière s'intéresse beaucoup... au nucléaire, parce que ça met en cause aussi l'écosystème de la planète. Et donc, voilà, on a essayé de faire un peu le point là-dessus. Il y a eu très, très peu de bouquins. Je crois qu'il y a un seul livre qui est sorti en français sur ce sujet-là. D'accord. Alors qu'il y a peut-être, depuis les années 50, 1500 livres qui sont sortis sur le sujet. Il y a un seul qui est sorti il y a 2-3 ans sur le thème OVNI nucléaire.
Okay. Et ben du coup, on va tous l'acheter, quoi.
J'espère. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh, I leaned back on my radio. Oh, oh, some cat was laying down some rock and roll at a solar set. Then the loud sound, it seemed. Mais on aurait dit que le truc central, c'était ça. Ouais. C'était le côté émotionnel, quoi. Alors, c'est curieux, quoi. C'est curieux plus que...
J'aimerais bien savoir si aussi il y a eu des événements où il y a eu des gens de cultures différentes qui ont assisté à quelque chose et s'ils ont vu la même chose.
Ouais, très souvent, il y a des choses qui ne sont pas du tout perçues pareil. Et sur le phénomène enlèvement... on n'a pas ça en France.
Oui, c'est vrai que.
Par contre, on a des Américains qui sont venus en vacances en France qui ont vu des phénomènes qu'ils voient aux États-Unis. Mais chez nous, ils ont vu la même chose qu'ils voient. Enfin, il y a eu quelques cas, mais ce n'est pas des Français. Donc, alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la culture ou. Il y a plein de choses qui sont assez hallucinantes.